Bonjour! Bonjour, ma princesse!
You fuck my wife.
What?
You fuck my wife.
Sarah Connor, non. Je suis ton père.
Tu n'es qu'un jouet!
Oh mon Dieu! Ils ont tué Kenny!
Voilà ce qui se passe quand on veut niquer des gens jusqu'au trognon!
Je suis navré d'avoir à vous le dire, vous faites une embolie schizophrénique, mais ce n'est pas un claquement de doigts qui peut vous en sortir.
Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle émission de Ciné Primitif.
Salut tout le monde.
Bonsoir.
Avec Dahu et Bobo.
Comme d'habitude.
Comme d'habitude, toujours la même équipe.
Oui, et puis pour la dernière de
la dernière, ouais, la dernière de la saison, on revient en septembre quand même. Et on a quand même présenté 66 films cette année.
Bah à la fin de celle-là.
Ouais. Ouais, à la fin de celle-ci, ouais,
vous il reste 6 films. Vous retrouvez d'ailleurs l'ensemble des 66 films, la liste, très prochainement sur le site. Voilà.
Sur la page, oui, pourquoi pas. Ouais.
Exactement.
Et puis
exactement.
Sinon, les replays sur la...
voilà, si un le jour, site de. Vous êtes devant votre télé, vous savez pas quoi regarder. Tac, vous regardez la page et vous dites je vais prendre un des 66 films proposés par Nono Dahu et Bobo.
Ouais, des chouettes sélections à chaque fois. Et ouais, aujourd'hui, on est sur le dernier thème, du coup, c'est le thème espace. C'est un thème qui vous a parlé ?
Toujours, hein.
Ah façon... oui, surtout que c'est un de mes thèmes, je crois. Donc,
ouais, c'est vrai que c'est toi qui as choisi Bobo.
Ouais, il m'a bien parlé. Ouais. Okay. Il y a plein de films, mais bon, il fallait
c'est assez diversifié comme d'habitude. Hein.
Bien sûr.
Je vous propose qu'on commence par le premier film. Donc, c'est un film que je vais vous présenter. C'est un classique de Stanley Kubrick sorti en 1968. C'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Voilà, c'est un film qui, moi, je trouve pas mal. Bobo, je crois que t'as un autre avis là-dessus, mais bon, on en parlera.
Oui, non, mais c'est un an avant le faux alunissage de la NASA. Non, je plaisante.
Ah, comment ça ?
Bien sûr, non, je plaisante. Non, mais voilà, et c'est un an avant la véritable expédition qui a marché sur la Lune.
Ouais, c'est pour ça que je trouve ça un film parfait.
Exactement, voilà. Exactement. Mais... pff, c'est chiant.
Non, il est pas chiant. Alors, déjà, c'est un film de Stanley Kubrick, donc un réalisateur de génie, donc qui a fait aussi Full Metal Jacket qu'on a présenté, Shining et Orange Mécanique, dont la musique, c'est notre musique d'intro. C'est un film qui est basé sur deux nouvelles d'Arthur C. Clarke, À l'aube de l'histoire et La Sentinelle. C'est un écrivain de science-fiction qui participe aussi à l'écriture du scénario. En acteur perso, je ne les connais pas. Kerr Douléa, Gary Lockwood et William Sylvester.
Je sais plus.
Ouais, en même temps, ces films. Enfin, j'ai regardé un peu leur filmographie.
T'as joué dans d'autres Kubrick, je sais pas.
C'est vraiment trop loin pour nous.
Ouais, c'est ça, 68. Tiens. Bon, après, pour le synopsis, donc, je vais pas faire le synopsis parce que c'est un film en quatre parties. Donc.
Ouais. Non, mais si, t'as raison. T'as ta première partie. C'est dans.
C'est des primates. Il y a des millions d'années, 4 millions d'années. C'est des primates, donc des australopithèques qui découvrent un bloc de pierre, un monolithe de couleur noire. Un des primates, en touchant le monolithe, va utiliser un os comme outil, puis comme une arme avec laquelle on peut tuer.
Voilà, est-ce que ça a été fait pour le premier meurtre ? Est-ce que ça a été fait pour l'évolution ?
Non, c'est... ouais.
Il y a plein de questions, en fait, ça pose énormément de questions.
Bah, c'est un film qui pose beaucoup de questions,
ouais.
Plus de, qui donne de réponses.
C'est ouvert. Moi, oui. Je trouve ça ouvert. À la lecture, elle est dit, moi, j'aime bien.
Oui, ouais, chacun son interprétation.
Oui. Oui, alors la première fois que tu le vois, voilà, c'est sympa parce qu'effectivement tu te poses beaucoup de questions. C'est un film à revoir, je trouve difficile.
Ah ouais, non, ouais, moi j'aime bien.
Du moins, en fait, ça suit, t'as quand même une trame narrative parce que le premier outil qu'il fabrique, ça sert à détruire l'homme, et au final, après, la technologie en vient à se retourner plus ou moins contre l'homme, du moins, les ennuis en erreur. Donc, au final, chaque fois qu'on progresse, c'est pour nous détruire, nous. Et.
Parce qu'on se détruit qu'on arrive à progresser.
Oui, aussi, du moins, il y a plein de...
Ouais, plein de façons de voir. Et puis, tu sais pas d'où vient ce fameux monolithe. C'est un truc qu'on pense extraterrestre. Enfin, donc après, il y a une deuxième partie, c'est des vaisseaux dans l'espace. C'est en 1999, donc là, 4 millions d'années après la première partie. Le docteur Ewitt Floyd se rend sur la Lune pour enquêter sur une découverte gardée secrète par les Américains. Une anomalie magnétique provoquée par un monolithe.
Moi, je la trouve beaucoup plus intéressante que la première.
Oui,
parce qu'effectivement, là, t'as déjà la réflexion sur le vaisseau spatial.
T'as des films actuels qui ont vraiment rien à voir ils sont mis à la lumière de la qualité de ce que
j'ai par contre, le film est très beau, quoi. C'est un film contemplatif.
Les pièces, du moins les studios qu'il a fallu, parce que c'est circulaire, ça tourne tout le temps.
Sûr.
C'est toujours un moment. Donc c'était des grandes pièces rotatives qui tournaient.
Autant moi, je m'ennuie sur la première partie.
Ouais.
Autant sur la deuxième,
tu dis,
le gars, il a fait des choses sur la suite qui sont intéressantes.
Ouais. Bah, moi, celle que je préfère, c'est la troisième partie, la mission Jupiter, 18 mois mois plus tard. C'est en 2001, l'équipage du vaisseau spatial Discovery One, composé de deux astronautes, David Bowman et Frank Poole, ils se dirigent vers Jupiter, assistés par une intelligence artificielle appelée L9000. L'intelligence artificielle, on est en plein dedans, et j'avoue que ça a bien vieilli, ça.
Ah, bien sûr. Ouais. Après, non.
C'est la vision qu'ils en avaient à l'époque de l'intelligence artificielle, parce que nous, la vision qu'on en a, c'est un assistant, assistant personnel, maintenant.
Après, il y a 50 piges, hein, 55 ans. Mais là, il y a une grosse anticipation qui est quand même intéressante.
Ça, juste sur les années, il se plante. Après, sur la vision de l'espace, tout le monde a pris les modèles de station spatiale, etc.
Ouais, non, franchement, je trouve ça fort en 68. Et puis, la dernière partie, Jupiter est au-delà de l'infini.
Un peu barré.
C'est complètement psyché.
Après, ça reste du cube. Tu as souvent ça dans ces films, quand il y a un passage qui est un peu barré et qui te déroute. Ouais. Ça reste une œuvre d'art. Lui, il fait du cinéma pour faire une œuvre d'art et pas
oui,
pour.
Oui.
Celui-là, j'avoue que j'ai pas tout compris. Donc
et c'est celui qui déroute, en fait, je pense, plus de personnes pour que chacun interprète son œuvre.
Bien sûr, mais alors là, t'as une ou deux interprétations possibles. Ouais. Non,
chacun.
Et même le réalisateur, j'ai vu, hein, parce que je me suis renseigné un peu, il donne jamais la même interprétation selon les interviews. Et du coup, on retrouve l'histoire du monolithe, qui est d'une taille gigantesque cette fois. Et David Bowman, en le découvrant, va se retrouver aspiré dans un vortex lumineux. Ensuite, on le retrouve dans une chambre d'hôtel dans laquelle il se voit vieillir prématurément jusqu'à devenir un fœtus.
Ça, déjà, si vous arrivez au bout du film pour voir ça, c'est déjà bien, quoi. Tu vois,
arrête. Je pourrais boire et manger ce film.
C'est vrai que moi j'ai apprécié. Par contre, j'ai pas tout compris. Je sais pas s'il y a des choses vraiment.
Je pense pas que ça soit un film tout public quand même.
Non. Alors moi, c'est vraiment un film. Il y a des choses qui me fatiguent, mais il y a des choses sublimes.
La réalisation, elle est parfaite.
Ouais, exactement. C'est ça. Les effets visuels.
Donc, c'est un film moi qui me tiraille un peu dans le sens où la première et dernière partie, je suis vraiment pas fan.
Mmh. Faut contextualiser, c'est quand même à 68, du moins ces années un peu hippie.
Au niveau
un peu de psychédélique.
Je ne remets pas ça en cause. Je dis d'un point de vue personnel qui me fatigue à revoir. En revanche, la 2e et 3e partie, je les trouve véritablement
excellents. Ouais. Au niveau des effets spéciaux et tout, il n'a pas trop vieilli. D'ailleurs, Stanley Kubrick, ça a été son seul Oscar.
Il n'a pas volé.
Ouais.
Il aurait peut-être dû en mériter plusieurs.
Ouais, lui, il aurait mérité beaucoup d'Oscars. Hein, franchement, Stanley Kubrick.
On parlera d'autres films aussi qui auraient mérité des Oscars.
Oui, il y en a plein. Après, la musique aussi est cool. Beaucoup de classiques.
Ouais. Ah ouais, la musique, pas chiant. Ouais,
il y a plein de
tous ces films, de toute façon, en général.
Sympa.
C'est quand même 9 ans avant le premier Star Wars, qui a été le gros nouveau d'Hollywood. Ouais. Il a posé. Et puis avant la conquête spatiale, du moins, c'était déjà la conquête spatiale, mais avant que l'homme marche sur la lune.
Oui, non, mais c'est ça. En 68, je crois que t'as Yuri Gagarin qui va dans l'espace.
Exactement. Non, mais en plus, à l'époque, c'est vrai que quand tu regardais des films sur l'espace, etc., c'était que des costumes d'extraterrestres en latex et tout. Là, t'as pas d'extraterrestres, tu les vois pas. Je propose qu'on passe la musique que j'ai sélectionnée. Donc, c'est le Beau Danube Bleu, composé par Johann Strauss II au 19e siècle, je crois. Et je sais pas qui...
qui interprète.
Qui interprète, par contre, j'ai pas retrouvé. Voilà, désolé. Thank you. Et de retour dans Ciné Primitif, on vient de s'écouter Le Beau Danube Bleu, une musique de 2001, L'Odyssée de l'Espace. Toujours sur le thème espace, on passe au prochain film.
Interstellar, sorti en 2014, réalisé par Christopher Nolan, hein, qui a fait Batman, la trilogie, Inception, Shutter Island, Le Prestige, Memento, Insomnia. Excellent, excellent film. Mm. Très grand réalisateur, hein, quand même, Christopher Nolan. Mm-hmm. À la distribution, Matthew McConaughey, Anne Hathaway, qui a travaillé avec Christopher Nolan sur Batman. Mm-hmm. Le troisième en tant que Catwoman, Michael Caine.
Qui est partout, sur la plupart
aussi,
de ses films.
Ouais, c'est ça. Qui est sur la trilogie Batman, Jessica Chastain, qui monte... énormément, très belle actrice, très performante, et Casey Affleck, voilà, le petit frère de Ben Affleck,
un bon acteur aussi,
qui est un très bon acteur aussi, ouais. De second rôle, mais qui fait vraiment le boulot. Pour le synopsis, le film raconte le voyage d'un groupe d'explorateurs qui utilise une faille récemment découverte dans l'espace-temps, communément appelée trou de ver, afin de repousser les limites humaines et partir à la conquête des distances astronomiques dans un voyage interstellaire, afin de sauver l'humanité d'une planète Terre à l'agonie. Je vais pas vous le cacher, c'est mon film préféré.
Ouais, tu l'avais déjà dit d'ailleurs.
Ouais, c'est le seul film que je suis allé voir au cinéma. En sortant de la salle, j'ai dit je vais le revoir dans la journée.
Je vais te le revoir dans la journée aussi.
Ouais. Il m'a éclaté. C'est un film, tout est superbe dedans et vous allez pas le croire, mais il n'a reçu aucun Oscar.
Ouais. Il était face à quoi?
Aucune idée, on s'en fiche. Tu peux le mettre face à n'importe quoi, n'importe qui.
Ouais, c'est les Oscars.
Enfin, pour moi, il a révolutionné la perception de l'espace, la réalisation.
Bah, il l'a pas encore révolutionné, vu qu'il n'y a pas de concurrent. Mais en tout cas, il a posé une...
Voilà, et c'est très bien de le présenter après Kubrick et 2001, l'Odyssée de l'espace. Voilà, on est sur la nouvelle génération et... Il est à couper le souffle, c'est un film à couper le souffle.
50 ans après.
Et avec des plans qui sont presque similaires à 2001, l'Odyssée de l'espace, avec la station en orbite, le vaisseau où il doit se synchroniser dans...
Ouais, c'est vrai.
À la fin.
Ouais, c'est sur une esthétique en plus circulaire, très Kubrickienne.
Exactement. Après, moi, si ça vous dérange pas sur ce film, je vais véritablement parler un peu de, des anecdotes, mais d'un côté scientifique. Parce qu'on a parlé de Kubrick qui révolutionne un peu le genre, qui est le premier à véritablement poser les bases du voyage dans l'espace. Là, ce film, il se base sur de véritables théories scientifiques, et c'est ça qui est exceptionnel.
Bien sûr.
Après,
Kubrick, lui, il se base sur un livre.
Oui.
Voilà, c'est une œuvre de fiction.
Oui.
C'est là, c'est une œuvre de recherche qu'il a fait lui-même.
Voilà. Et
il a posé ses couilles là.
Et Christopher Nolan a écrit effectivement. Enfin, le scénario avait été écrit par Spielberg à la base et il n'avait pas le temps de le faire, donc c'est Christopher Nolan qui l'a fait.
Putain, je savais pas.
Mais après, il l'a réécrit avec notamment les travaux de Kip Thorne, un éminent physicien et théoricien réputé pour ses apports cruciaux à la physique, astronomie. Et surtout dans le domaine de la gravitation, il a également donc participé à l'élaboration du scénario et il a travaillé sur la théorie de la relativité d'Einstein. Voilà, d'après ses recherches, il serait possible de voyager dans le temps grâce au fameux trou de ver. Lors de la phase de pré-production, Thorne a imposé deux lignes de conduite à suivre impérativement. Rien ne doit violer les lois établies de la physique et toutes les spéculations évoquées dans le film se doivent de provenir de la science et non pas de l'esprit créatif d'un scénariste. Et le réalisateur, Nolan, a accepté. Et donc il a construit, retravaillé le scénario sur ses bases scientifiques.
Nolan, ce qui est fort, c'est qu'il fait de la vulgarisation. Ça parle à tout le monde et il rentre dans le détail parce que sinon il y aurait du paradoxe et tout. T'imposes ta base, t'es en feu de l'action. Putain, McConaughey au début il dit faut que je parte pour une mission pour sauver la Terre parce que la Terre envahit de poussière, tempête, etc. Mais tu connais pas vraiment son background, tu le découvres au fur et à mesure, et tu es pris dans l'action et il maîtrise à perfection ce film là. Peut-être pas mérité un Oscar, hein, Peter McConaughey, mais quand même, c'est son meilleur rôle pour moi.
Après, moi je trouve ça dommage.
Pourquoi qu'il en a plein.
Ouais, mais je trouve ça dommage que ce soit un film qui n'ait aucune récompense. Voilà. Peu importe.
Il n'y en a pas eu aux Oscars, il y a dû en avoir d'autres.
Non, quasi pas. Je crois qu'il n'y a eu que deux nominations et
Zimmer, mais comment elle était
un truc. Non, mais vraiment.
Au Bobo Award.
Voilà, après, on peut parler de l'anecdote entre Kip Thorne et le scientifique Stephen Hawking, vous savez, celui qui est en chaise roulante avec le DJ
Qui était,
là. Parce que oui, c'est vrai qu'il est mort.
Il n'est plus.
Voilà, ils avaient fait un pari sur les trous de verre, etc. Et Stephen Hawking, quand même éminent scientifique, a perdu. Et du coup, il a dû s'inscrire à une revue, je ne sais plus comment elle s'appelle, la revue...
Penthouse.
Penthouse, voilà, pendant un an, c'était le gage, voilà, entre les deux. Après, Nolan aussi a beaucoup travaillé avec les travaux de Carl Sagan, tout le monde le connaît, je pense, scientifique et astronome américain, pour écrire le scénario. Voilà, il a bossé pour que ce soit vraiment quelque chose de vraisemblable. Il s'est inspiré de la station Mir. C'est un film qui a vraiment un gros bagage scientifique et un gros socle scientifique. Et c'est en ça que moi je l'aime.
Ouais, puis on en prend plein la gueule. Hein. Le rythme est bon. C'est pessimiste, c'est super pessimiste. Mais c'est de l'anticipation. Et franchement, moi, je ne vois rien acheter en ce moment.
Non, il n'y a rien à acheter. La musique, les acteurs, le scénario.
Puis il est compréhensible. Parce que des fois, on reproche à Nolan de faire des films.
Bah, et après, il reste toujours dans les mêmes mécaniques de construction.
De narration.
Dans ses scénarios. Tout vraiment la patte qu'il a dans Inception et tout. Dans Watton, c'est un peu différent, même si c'est construit un peu de la même manière. Mais... Moi, j'apprécie ses constructions de films. Pas dans tous, hein, parce qu'il y en a, c'est un peu bordique, genre Dunkirk.
Ah ouais, non.
Ça part un peu, le montage est un peu extrême. Mais...
Après, voilà, tu vois, c'est comme tous les grands réalisateurs, il s'est lancé dans le film de guerre. Voilà, comme Kubrick, Spielberg.
Kubrick,
voilà.
Il a réussi.
Kubrick, il a réussi. Oui. Non, mais ils ont. Oui. Après, Full Metal Jacket, c'est pas non plus le meilleur film de guerre. C'est un très bon film de guerre. C'est pas le meilleur. Mais, enfin voilà, il faut, entre guillemets, il a touché un peu à tout. Mm. Et là, quand il touche l'espace, il fait très mal.
Le temps, l'espace.
La gravité, l'amour. Ce film, en fait, il est basé sur l'amour.
Oui, le pouvoir de l'amour, ça fait un peu Disney. Hein.
Non, c'est magique. Parce
mais
que
pourquoi
c'est vrai.
Pas j'aime
non,
bien.
Mais moi, j'adore.
Non, mais j'avoue que c'est pas mal
que
dans le film.
Tu
c'est bien amené.
Comprendre.
C'est vrai.
Que, tu vois, que tu n'arrives pas à percevoir, mais qui est présent. Et au final, que la transmission puisse se faire par l'amour, je trouve ça beau, en fait. Et non, je l'ai vraiment trouvé exceptionnel, ce film.
Ouais, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Hein.
Ouais, genre, donc...
Je connais personne qui ne l'a pas aimé, à ma connaissance.
Non, voilà, sublime.
La musique, ouais.
Hans Zimmer, quand même, hein, on va vous passer le thème principal, mais Hans Zimmer, c'est quand même celui qui a fait la musique du Roi Lion, Dune, les deux nouveaux, True Romance, qui
a
été présenté...
Sur le thème mafia.
Voilà, qui nous a été présenté par Nono, Gladiator, Pirates des Caraïbes, Batman, enfin voilà, hein, c'est quand même pas n'importe qui. Petite dernière anecdote, il a réalisé la bande-son donc, du film sans connaître le scénario.
Ouais, ok.
Parce que Nolan, c'est son délire, il donne le scénario à personne, ou alors tu lis le scénario et après je le récupère.
Sur Inception, il avait fait pareil.
Ouais, et donc Hans Zimmer, il a créé la musique du film sans connaître le scénario. Et donc ce sera le thème principal de Hans Zimmer sur Interstellar.
De retour dans Ciné Primitif, Bobo, c'était
Interstellar de Christopher Nolan avec une BO de Hans Zimmer. Que du bonheur.
Et là, on va passer à Total Recall, un film de Paul Verhoeven. Donc, un grand classique, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu. La musique est composée par Jerry Goldsmith, hein, on le revoit
encore. Oh, Jerry Goldsmith. C'est la 10e fois.
Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Le scénario est adapté d'une nouvelle de Philip K. Dick, Souvenir à vendre, le titre en anglais c'est We Can Remember It. Donc il est sorti en 90 en France. Dans le film on peut retrouver le vrai Jésus.
Schwarzy
Arnold Schwarzenegger, qui joue le rôle de Qued. Dans le film on retrouve aussi Sharon Stone, qui joue la compagne d'Arnold Schwarzenegger. Rachel Ticotin, qui joue une connaissance aussi d'Arnold Schwarzenegger. Ronnie Cox et Michaela Ironside, qu'on retrouve dans d'autres films de Paul Verhoeven et aussi dans le génialissime Scanner. Donc le synopsis, en 2084, Douglas Qued, un ouvrier en bâtiment hanté par des rêves récurrents de Mars, décide de se rendre chez Red Call, une entreprise spécialisée dans l'implantation de souvenirs artificiels. Mais l'expérience tourne mal, réveillant en lui des souvenirs d'une vie passée en tant qu'agent sur le secret sur Mars. Le film est assez varié, parce qu'on sait jamais si c'est...
du rêve
En fait, on sait pas jusqu'à la fin, presque, si c'est un rêve qui lui a été implanté, parce que dans ce futur-là, aller sur Mars, c'est un rêve pour les classes, pauvres, qui veulent aller voyager vers... la société Recall leur propose des souvenirs qui leur permettent d'avoir vraiment vécu cette expérience du moins. Dans leur tête, ils sont vraiment... persuadé de l'avoir fait. Et Schwarzenegger, oui, en bâtiment, bien bodybuildé comme il faut, il va, et ça se passe mal. Il a des souvenirs de Mars, ce qu'il ne devrait pas avoir, vu qu'il n'y a jamais été.
Agent double.
C'est ça.
Mais après, voilà, effectivement, jusqu'au bout, tu te dis, est-ce que c'est véritablement le rêve qu'ils lui ont implanté? En fait, il y a plein d'indices, quand même,
oui,
dans le film,
sûr.
Qui te disent, non.
Bien sûr.
Mais
sur la fin, moi je pense que tu peux aussi te dire que
moi,
c'était ça de commande en fait.
C'est vrai, moi j'ai pris à l'inverse sur la fin. Au bout.
Non, il y a pas. Je peux te les énumérer, on n'a pas le temps.
Oui, il y en a pas mal.
Mais qui font.
Non, mais je suis d'accord, mais la fin te laisse un gros doute.
Oui, c'est à toute fin.
Je suis d'accord. Mais bon.
Après, pour revenir au film, ils veulent tous aller sur Mars. Mars c'est pourri, c'est industriel. L'air est recyclé, on peut pas respirer.
C'est Roubaix, quoi. C'est...
Valenciennes.
Ouais, Valenciennes, pardon. On est dans le nord de la Terre, là. Il y a plein de choses drôles. Bah, Philip K. Dick, de toute façon, c'est un des plus grands auteurs de l'époque sur de l'anticipation, de la science-fiction, etc. Et dans son adaptation, tu ressens le... C'est pas beau, en fait, le futur. C'est ça, le taxi, c'est des IA, tout le monde se fait la guerre, il y a des meufs à trois seins, il y a des naines...
Ouais, après, tout ça, en fait, c'est tout ça, les difformités physiques, c'est la cause, en fait, d'un industriel qui a pris le pouvoir
c'est
sur cette planète.
Et plutôt que privilégier la santé des gens et d'empêcher la radiation du...
On est sur du pur esclavage d'une population qui vient travailler et découvrir un nouveau monde sur cette planète.
Non, en leur montrant une crainte que s'ils font pas ça, vous avez plus rien.
Ouais, voilà.
Bon, après, moi, ce film, je trouve ça un des grands classiques.
Il est génial.
Et surtout, Verhoeven, il est trop fort là-dessus, que ce soit pour Robocop, Starship Troopers, dont on va parler tout à l'heure. Il a une vision du futur à chaque fois.
Moi, ce que j'aime bien, c'est que t'as le film, c'est calme, c'est posé, c'est bien réfléchi, et d'un coup, tac, c'est hyper violent. T'as des trucs...
Dès le début, son pote t'a kiffé du marteau piqueur.
Non, mais direct. Et là, en fait, t'as des scènes de violence, quand même, qui sont durs, et ça était ça dans Robocop. Il est extrêmement dur.
Il est bien.
Il est vraiment bien.
Et là, Total Recall, il est super violent aussi. Mais c'est pas de la violence gratuite.
Mais non, mais c'est ça.
C'est bien amené, et dans le scénario.
Verhoeven, ce qui est excellent, c'est qu'on croit que c'est les gros blockbusters sans. Enfin, il n'y a pas de.
Parce qu'à chaque fois qu'il sort un film, ça marche pas. Du moins, est toujours dans.
Mais parce qu'il est dans un entre-deux à chaque fois, quoi. C'est du gros budget, mais tu sais pas si c'est un film d'action débile ou si c'est un truc.
Mais tous ces films ont été jugés à leur juste valeur, de toute façon.
Plusieurs années après. Ouais, c'est ça.
Je le trouve bon, moi.
Et Sharon Stone, oui, je oui, préfère.
Je le trouve juste.
Sharon Stone, je la préfère là-dedans que dans Casino. Tu vois, je trouve son rôle plus adapté. Mais bon, bah voilà, bah, la bande son est cool. Les effets spéciaux sont vraiment bien foutus, hein, parce que c'est pas un gros budget vu le casting qu'il y a. Et ce film a bien marché. Il a reçu le prix d'Avoriaz, l'ancêtre de Jarmet. Il a eu l'Oscar aussi des effets spéciaux. Beaucoup de studios, mais sinon, après, c'est assez bienveillant. Ouais. Après, on parle pas du remake. Le remake, je l'ai pas vu entièrement, je pourrais pas le juger.
Bah, si pour l'avoir vu entièrement, voilà, c'est beaucoup plus d'effets spéciaux, plus modernes, etc. Mais je veux dire, ça il n'apporte rien de nouveau.
Il faut arrêter les remakes, hein, des fois. Il y a un moment où, quand t'as des œuvres comme ça, je vois pas l'intérêt de faire un remake.
Bah, surtout que la
seule... Après, en fait, l'intérêt, il est pécunier.
Financier.
Financier.
En image de synthèse, il n'y en a pas eu énormément. Il y a eu la scène où il passe en image. En squelette, c'est Rayon X.
Ouais.
Je crois que c'est la seule scène qui a été faite en image vraiment.
Bah, ou quand il se transforme en vieille dame.
Non, c'est en animatronique.
Ok, ouais.
Et en plus, cette scène, elle est. Franchement, tu la supprimes.
Moi, ça gâche pas le film.
Ouais, non, mais ce que je veux dire, en fait, c'était pas nécessaire.
Oui, mais c'est vrai qu'elle est pas forcément nécessaire. Oui, non, c'est vrai qu'elle est pas
nécessaire. Voilà, parce qu'en fait, il casse la vitre, et puis après, il y a personne qui le voit après.
Non, c'est pour montrer un peu une technique de...
Ouais, c'est une vitre, on va dire.
Bon, bah, on va finir avec Total Recall. Oui. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller de le voir. Pas d'aller le voir, parce que, bon, il passe plus en salle, hein, depuis un moment.
Malheureusement.
Mais un chef-d'œuvre, des grands acteurs, une bonne réalisation, une bonne direction d'acteur, une bonne bande-son.
La bande-son.
Ouais, la bande-son, effectivement. Donc, la bande-son, c'est Jerry Goldsmith. Et le thème que j'ai pris, c'est le thème principal du film, l'ouverture.
Et de retour dans Ciné Primitif, du coup, c'était la musique de Total Recall.
Oh oui, composée par
Jerry Goldsmith.
Et on passe au film suivant.
C'est pour toi, Nono.
Ouais. Encore un film de Paul Verhoeven.
Ouais. Et quel film?
Ouais. Starship Troopers.
Oh oui.
Sorti en 1997. Donc Paul Verhoeven, on l'a présenté tout à l'heure avec Total Recall, justement. Le film, c'est une libre adaptation, pardon, du roman Étoile, Garde à vous, de Robert A. Heinlein, qui est un auteur de science-fiction un peu controversé.
Oui.
En distribution, on a des acteurs comme Casper Van Dien, Dina Meyer, Denise Richards, Jacques Bezet, Neil Patrick Harris.
Ouais. On a deux qui ont réussi à percer.
Ouais, voilà. Après, Dina Meyer, qu'est-ce qu'elle est magnifique dans ce film.
Et justement, c'était un peu le but, il a pris que des beaux gosses, un peu des Ken et Barbie dans ce film. Et Paul Verhoeven n'a pas lu le livre entier, apparemment.
Ouais.
Et il a décidé de faire autre chose. Donc, c'est-à-dire une satire.
Oui, parce que c'est un peu à l'opposé complet du.
C'est ça,
du
c'est un film original. Un film anti-fasciste, anti-militariste. Dans un futur éloigné, une fédération musclée fait régner sur la Terre l'ordre et la vertu. Il y a un gouvernement mondial qui a pris le contrôle et qui exhorte la jeunesse à la lutte, au devoir, à l'abnégation et au sacrifice de soi. Mais aux confins de la galaxie, une armée d'arachnides se dresse contre l'espèce humaine et ses insectes géants rasent en quelques secondes la ville de Buenos Aires. De jeunes volontaires, à peine sortis du lycée, pleins d'ardeur et de courage, partent en mission dans l'espace pour combattre les envahisseurs. J'ai mis les envahisseurs entre guillemets.
Ouais, ouais. C'est plutôt... oui, c'est plutôt une guerre inter-espèce. Non, j'en reviens à ta satire, etc. C'est pas que ça. Ça fait la... Enfin, c'est une stratocratie, hein, si tu veux. C'est-à-dire que le pouvoir politique appartient aux militaires. Et les lois militaires...
Ouais, mais là, justement, c'est pour juste...
dénoncer tout ça.
Pas dénoncer... tant que ça.
Bah si.
Non, je suis pas... Non, pas tant que ça, parce que, si tu veux, c'est la stratocratie, là, peut être une véritable réponse à l'espèce humaine qui est engagée dans un conflit contre une autre espèce.
Ah, bah, oui. Ah oui, non, mais on ne sait pas vraiment pourquoi elle est engagée dans ce conflit. Hein. Il y a plein de clips de propagande dans le film... Justement, pour dire que les arachnides...
Ils sont pas bien et que les enfants doivent déjà les tuer.
C'est ça. Donc, en fait, il y a plein de trucs. Engagez-vous, machin. Si vous voulez devenir un citoyen, parce que pour devenir citoyen, il faut faire l'armée.
Mais c'est ça, en fait, le principe de la stratocratie.
Donc, t'as pas le droit de voter.
C'est-à-dire que si tu veux devenir citoyen, il faut que tu deviennes militaire. Ouais. C'est, en fait, le même principe que les Spartiates.
Oui, bien sûr.
Tu vois, dans la Grèce antique.
Mais je dis pas le contraire de ce que tu dis. Je dis juste que la manière où il la met dans le film, ça contre le courant du bouquin, ou qui est pas une propagande pour l'armée. Lui, il a retourné le truc en prenant cette base. Mais pour montrer la débilité...
Le ridicule. Les personnages ne se posent aucune question. Tous les militaires, ils s'engagent pour devenir citoyens. Mais ils ne savent pas vraiment pourquoi. On leur dit qu'il faut faire comme ça, ils font comme ça.
Pas
et les arachnides, on ne sait même pas si c'est des méchants.
Je suis pas totalement d'accord, parce que tu étais quand même sur des individus extrêmement intelligents.
Non.
Si.
Ken et Barbie qui vont à la guerre.
Non. Celle qui part dans l'aéronautique et puis celui qui part dans les renseignements
spéciaux. Neil Patrick Harris.
Voilà. Ah oui, ils ont un QI élevé, mais ils sont pas super intelligents.
Non, mais si, en fait, si tu veux, c'est
ils
simple.
Ont pas de recul sur ce qui se passe.
Dans le film, ce qu'ils montrent, c'est vraiment le l'absurdité.
Mais oui.
De décisionnaires et c'est l'aspect chair humaine, l'aspect que les. Que tout le monde n'a pas la même valeur, son prix n'a pas le même coût. Quand on envoie l'infanterie faire la vengeance de Buenos Aires...
C'est une réalité. C'est dans l'armée à l'heure actuelle, c'est une réalité.
Mais ils sont préparés. Du moins là, il n'y a aucune préparation. On parle d'envahisseurs, à aucun moment ils sont sur la Terre, ils bombardent, etc.
Tu sais même pas.
Et les envahisseurs, c'est les humains qui vont aller sur les planètes.
C'est des colons. Les colons, c'est les humains.
Bien sûr. Parce que tu es sur de la conquête spatiale. L'être humain, effectivement, est sur de la conquête spatiale et se trouve sur une autre espèce qui, eux, se défendent, entre guillemets.
Oui, ils se défendent.
Voilà. Sauf qu'à un moment donné, ils attaquent ta planète.
Oui. Mais là, le principe de la parodie, il est dans toute la clip de propagande, dans la gestion des émotions des commandants, de ceux qui gèrent l'armée.
Il y a des trucs pas très subtils parce qu'on est quand même sur l'imagerie nazie, hein, clairement.
Bien sûr.
Genre avec justement dans les clips de propagande où on voit des villes détruites, soi-disant attaquées par les parasites, donc les arachnides.
Sont véritablement attaquées par les parasites.
On sait pas ça. Et on nous dit ça, un bon parasite est un parasite mort.
Alors attention, je fais pas l'apologie d'une stratocratie, etc. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est-à-dire que si tu veux, enfin, tu as besoin d'hommes, tu as besoin, et puis t'es sur une planète Terre, à l'heure actuelle, hein, qui est à 7 à 8 milliards. Donc imagine dans 4 siècles, franchement, de la chair à canon, t'en as. Donc effectivement, et là, tu mets en place les propagandes que tu viens de dire, etc., etc. Mais c'est une véritable réponse.
Une réponse à quoi? Parce qu'il n'y a aucune preuve dans le film que les arachnides attaquent vraiment la Terre.
Bah si, t'as la destruction de Buenos Aires.
Ouais, mais ils ont envoyé une météorite. Et eux, c'est des arachnides, comment tu veux qu'ils aient les moyens
T'as vu ce qu'ils t'envoient de leur planète sur les vaisseaux spatiaux?
C'est des insectes.
Ouais, non, mais là, je suis pas d'accord avec toi.
En fait, ouais,
c'est une espèce... En plus, non, je suis pas d'accord non plus, parce que c'est une espèce de Xenos, géré juste par un seul... En fait, t'as un cerveau qui gère toutes les troupes, tu vois. Mais dans le film, on dénonce l'absurdité des guerres américaines, tout en étant réalisé par un réalisateur hollandais avec des protagonistes argentins. C'est là qu'on prend la dimension plus ou moins parodique. On voit aucun américain.
Enfin, faut pas le cantonner à juste une satire ce que font les Américains. La propagande ou quoi. Non, ça va au-delà.
Mais dans le panel
la réflexion, elle va au-delà sur une guerre interespèce.
C'est toujours la même mécanique, que ce soit avec Total Recall ou avec Robocop. On est dans l'absurdité totale, la démesure, pour une réponse qui ne répond pas au besoin.
Puis l'endoctrinement, en fait, vous n'avez plus besoin de réfléchir, le gouvernement réfléchit pour vous.
Alors, c'est le gouvernement, c'est l'armée. C'est ça, en fait, la stratégie. C'est-à-dire que si tu veux être citoyen, il faut que tu sois militaire. Si tu n'es pas militaire dans cette...
Tu es un sous-homme.
Exactement.
Bon, voilà. En tout cas, je vous invite à faire votre avis.
Mais
sur
allez le voir, le film est génial, les effets spéciaux sont fous.
Ah ouais, en plus, ouais, c'est ça. Le film, tu t'ennuies pas.
Les personnages sont bien écrits, bien. Tu vois, c'est des gens qui joueraient même pas dans des pubs actuellement.
Non, c'est bien dirigé. Ça, c'est des acteurs Kinder, quoi. Le film est bien. Après, si vous aimez juste les films d'action,
pas...
où il y a la guéguerre,
il a pas vieilli. Il est totalement d'actualité avec des jeux comme Helldiver, etc.
C'est vrai.
Le film a...
C'est un de mes films préférés. Enfin, je veux dire, il y a vraiment plusieurs lectures et il est extrêmement riche.
Pour moi, la lecture est assez claire et même le réalisateur est plutôt d'accord avec ma lecture. Mais bon. En attendant, je vous propose de passer une musique. Le compositeur, c'est Basile Paul Douris, qu'on a déjà vu dans Conan le Barbare. Mm-hmm. Beaucoup d'autres films. Et puis, la musique, du coup, c'est Klendatu Drop. Et du coup, c'était Starship Troopers, c'est la musique de...
Basil Paul Davis.
Voilà, c'est ça.
Et c'est pourtant...
Hein, c'est la musique de Glenn Dattu.
Ouais. Et maintenant, on passe...
au prochain film, Mars Attack. Alors, Mars Attack, c'est un film réalisé par Tim Burton, d'après une série de cartes à collectionner des années, je sais pas si ça doit être 60, 70, bah j'ai 60. Où c'était comme on avait avec les crados et toutes ces conneries, les stickers avec les extraterrestres. Donc c'est grâce à ces cartes-là qu'il a eu l'inspiration pour ce film. La musique, c'est Danny Elfman, ils se sont réconciliés pour ce film et faire la musique, enfin bref. Donc à production, on retrouve Tim Burton et Larry Franco. Larry Franco qui est un grand copain de John Carpenter.
Oh ouais, John Carpenter, mais...
Avec qui il a fait le plan des ténèbres,
Amazon Sotelette... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de John Carpenter. Je crois que l'émission précédente, on n'a pas parlé de John Carpenter, non, c'est bien
ça
dommage.
Ça m'avait manqué. Ouais.
Franchement, j'allais partir. Hein.
Donc, société de production Warner Bros. Et Tim Burton. Le film dure un peu plus d'une heure et demie. Bon, c'est un film comique.
Ouais, clairement.
Clairement, on est dans le grand divertissement. Il est sorti en 97 en France. Alors, dans la distribution, il y a beaucoup.
Je dirais
peut-être trop.
Non. C'est une des meilleures distributions. C'est une des meilleures distributions.
Je pourrais pas tous les dire, mais bon, il y a Jack Nicholson qui fait deux rôles, Glenn Close, Pierce Brosnan, Danny DeVito, Sarah Jessica Parker, Michael J. Fox, Tom Jones, Natalie Portman. Et Lisa Marie, qui était la femme de Tim Burton à cette époque-là.
Alors, on est sur les monstres des années 90.
Bon, on va parler un peu... Bon, on va résumer l'histoire. Le synopsis. Des soucoupes volantes surgissent du ciel, annonçant le tout premier contact entre l'humanité et une invasion extraterrestre. Avec les Martiens. Au début, tout le monde croit à une rencontre pacifique, jusqu'à ce que les Martiens se mettent à tout détruire avec une jubilation sadique. Une parodie explosive des films des actions des années 50, où la survie de l'humanité repose entre les mains de personnages aussi farfelus qu'improbables. Le film, la scène d'ouverture est très drôle. Là, on sent... du moins, la scène d'ouverture, on voit toutes les soucoupes volantes avec du Térémine. Bonne SF, la musique parfaite. On voit deux personnes dans la rue qui parlent de cochons grillés, tu fais un barbecue et tout. Et là, en fait, c'est des vaches un troupeau de vaches en feu qui arrivent directement. Et là, après, le film commence et... Et on a un panel de plein de personnages qui vont faire des scènes.
Et pour une fois. Après, moi, ce que j'aime bien dans ce film, au final, c'est que c'est Tim Burton qui est sur autre chose.
Oui, pour une fois, il s'est renouvelé.
Ouais, voilà.
Putain, il fait pas que du Tim Burton, je suis d'accord.
Et je pense qu'en fait, il l'a
fait. Plaisir.
Et je l'aime bien. Je l'aime bien pour ça, parce que.
Moi, c'est un de ses derniers bons films pour moi. Mais dans ce film-là, en fait, il l'a pris à contre-pied des grosses productions américaines où tu prends un acteur ou deux bankable, tu fais je sais pas combien, bah lui il dit je vais en prendre plein.
Ouais.
Puis on s'en fout, on va tous les tuer, moi j'en ai rien à foutre.
Pensez pour Jack Black.
Il y en a quand même, bah Jack Black je l'ai pas cité, mais il est dedans aussi. Ouais. Et la plupart de ces personnages-là, on les voit 15 minutes, Michael J. Fox,
oui,
20 minutes de film.
Inutile.
Oui, non, mais ils sont tous inutiles. Il n'y a pas un acteur, un personnage qui est utile.
Après, l'aspect vraiment contre-courant d'époque, c'est que tu t'attaches pas à personne, tu sais qu'il va mourir quelques
secondes. C'est vrai, oui, c'est ça.
Alors que c'est tous des acteurs quand même de grands noms, des acteurs qui ont joué des premiers rôles, etc. Ouais. Donc tu t'attends à ce que aussi mais la première fois que tu le vois, qu'il y en ait un qui prenne un peu le leadership. Et non, gros.
Et bah, au final,
j'avais n'importe quoi.
Le pire c'est que le film déjà l'a construit en fait juste avec les vignettes. Il avait que des photos de scène en fait. Il avait les cartes à collectionner, c'était genre l'extraterrestre qui tue un chien, le robot. Extraterrestre. Et en fait, il est parti de dessin comme il fait d'habitude, et après il crée une histoire. Il dessine et après il fait son histoire. Mais là, il avait déjà les cartes, donc il a mis les cartes devant lui, puis après, en fonction de ça, il a fait une histoire. Et on se rapproche vraiment du design des cartes. Les extraterrestres ressemblent vraiment.
C'est cartoonesque de ouf. Hein,
Par contre, vu qu'il y a beaucoup d'acteurs, ça coûtait cher en cachet. Hein, donc il n'y a pas beaucoup de mécatronique et tout est en image de synthèse, mais il a. En fait, il a fait un truc qui est sympa, c'est que sur les extraterrestres, il a réduit le nombre de frames. Du coup, on a l'impression qu'ils sont saccadés, tu vois, comme des gens animés, tu vois, que tu rajoutes dessus et que le cachet qui est... non, pas du stop motion, mais stop motion, du moins, qui sont animés, en fait, qu'ils ont été rajoutés par-dessus, comme on avait dans les films d'époque. Donc, ça garde vraiment un cachet. Il a profité aussi de la destruction de certains bâtiments à Las Vegas, genre l'hôtel-restaurant
qui devait reconstruire.
C'est ça qu'ils ont utilisé dans plusieurs autres films. Qu'ils ont réduit le budget un peu comme ça. Et au final, le film, bah, il n'a pas marché à sortir, hein, comme tous les films qu'on présente.
Ah oui, c'est vrai,
c'est ça. Hein.
C'est
ça.
Vrai.
Et il a aussi ses lettres de l'OBS plus tard. En tout cas, ce film est un grand classique de la science-fiction tout public. Hein.
Bah, faut le voir au moins une fois pour se rendre compte de la chose. Mais effectivement, moi, c'est pas, personnellement, c'est pas le genre de film que je revois.
Non,
tous
moi
les
non
ans,
plus,
mais
c'était l'occasion du coup.
Mais il est drôle.
Et c'est un bon Burton.
Il est particulier.
Différent des autres.
Et ouais, il est particulier. Ouais. Là, tu me dis Mars Attacks, je peux pas te trouver un équivalent.
Non, non,
tu vois, tu vois, c'est
non parce que voilà. rien que dans la construction, que les personnages. Voilà. Bah, en fait, on te raconte ce qui se passe en ce moment, voilà, comme un peu des infos, on monte là.
La connerie de ce film est tellement énorme que voilà, t'as pas d'équivalent dans le cinéma que de ce film. Donc,
surtout que les aliens sont montrés directement, tu les vois.
Ils aiment pas les colombes.
Ils aiment pas les colombes, ils aiment pas grand chose en fait. Ils aiment pas avec un design très 60s, donc c'est cool.
Alors, pour la bande-son, s'il te plaît, Dahub de Mars Attacks.
Pour la bande-son de Mars Attacks, Danny Elfman, c'est le thème d'introduction du film, main theme. Donc on vient de s'écouter la musique de Mars Attacks, composée par Danny Elfman. Oui. Et là, on passe au film suivant.
Allez.
Star Wars Rogue One, sorti en 2016, réalisé par Gareth Edwards, qui a fait notamment aussi Godzilla, avec une distribution Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Forest Whitaker, Mads Mikkelsen et Donnie Yen. Voilà, Donnie Yen qu'on a pu voir dans Ip Man, Mads Mikkelsen qu'on a pu voir dans énormément
dans
de films.
Le
meilleur acteur, ouais, le meilleur acteur suédois.
Danois.
Forest Whitaker. Danois ? Pas suédois, pardon, excuse-moi. Ah, Forest Whitaker, excellent acteur qu'on a pu voir dans Ghost Dog, exactement. Voilà, après les autres, les acteurs véritablement principaux sont un peu méconnus. Voilà,
ouais, pas grand-chose depuis.
Non, non, mais très intéressant. Voilà, le synopsis situé entre l'épisode 3 et 4 de la saga Star Wars, le film nous entraîne aux côtés d'individus ordinaires. Avec des acteurs ordinaires qui, pour rester fidèles à leurs valeurs, vont tenter l'impossible au péril de leur vie. ils n'avaient pas prévu de devenir des héros, mais dans une époque de plus en plus sombre, ils vont devoir dérober les plans de l'Étoile Noire, l'arme de destruction ultime de l'Empire. Et puis, excusez-moi, mais dans celui-là, après, enfin voilà, il y a eu 4, 5, 6, 1, 2, 3, bon bref. Mais là, on a le retour de Dark Vador, quoi. C'est-à-dire qu'après l'épisode 6, on n'a plus vu Dark Vador.
Au-delà de ça, on est le passement de la franchise à Disney. Je me dis, ils vont faire que des chats. Ce film-là, je l'adorais. J'étais le voir en salle. Mmh. Je me suis dit, bah putain, en fait, ça découille de passer la licence à Disney.
Ouais, non, mais là. Et là, au final, il a eu une liberté. Et le mec, donc.
C'était le dernier film où il y avait de la liberté, je crois. Ouais, c'est Disney. Mais...
Donc, c'est John Knoll, voilà, qui va voir la directrice de Disney et qui lui dit voilà, j'ai un scénario. Et il tente sa chance, en fait. Et il est sûr de rien. Et elle lui dit ok. Et là, il fait ce qu'il veut. Et en fait, il a fait un truc extra. Enfin, pour moi, extraordinaire. Sombre. Réaliste, il n'y a pas de magie,
il n'y a pas de magie dans les Jedi. Ouais. Ouais,
et même l'humour,
il marche bien.
Ouais, il est
propre. Tu t'ennuies pas, c'est drôle. Tu vois, c'est un film pour tout le monde.
Ouais.
C'est un des meilleurs Star Wars.
À part le 5.
Voilà, après, pour en revenir au titre, Rogue est employé comme appellation militaire, comme il s'agit du premier film sorti. En dehors des rails, donc des deux trilogies faisant partie de la saga, c'est donc Rogue One qu'il faut le comprendre sous le signe de premier en marge. D'accord. Après, c'est effectivement ce terme, vous le voyez dans l'épisode 4, 5 et 6, à chaque fois, c'est l'escadron qui va attaquer effectivement l'Empire, et etc. Mais voilà, lui, il le prend sous le terme de c'est les premiers en marche. Après, une explication d'autant plus satisfaisante qu'un escadron rebelle s'appelait effectivement Rogue dans le cinquième épisode de la saga, l'Empire contre-attaque. Mmh. Sur la planète Hoth pour les puristes. Le terme sans réel équivalent en français désigne donc un électron libre. D'accord ? Voilà. Moi, j'adore ça. Et encore une fois, il y a un retour de Dark Vador.
Ouais, mais moi, au-delà de ça, je trouve que l'écriture des personnages est parfaite parce qu'on arrive. Il y a un but, on sait pas où elle va aller. Si c'est un sort, il n'y a pas de force, il n'y a pas de Jedi et tout. Mais tu retrouves toutes les traces de l'Empire et tout, et de planètes en décision, tu sais que tu suis des rebelles.
Des rebelles.
Les rebelles sont un peu... marginaux. Ils gagnent un peu par la force des choses dans les films de Lucas, tu vois. Mais là, t'as de la perte, t'as...
Ils ont tous un objectif.
T'as de l'ambition, et chacun a bien rodé, quoi. On a fait une mission, c'est comme ça. Et, c'est,
Et puis t'as un objectif, en fait, chacun. T'as la fille abandonnée, t'as le rebelle qui est rebelle parce qu'il a fait des choses pas bien par le passé. T'as le droïde, lui...
Il est très bon, Druid.
Il est génial. Il fait penser à un pote à moi. Petite dédicace, Mar. Si tu nous écoutes.
Non, mais voilà. Mais en plus, t'es pas dans la peluche. T'es pas dans la commercialisation. Enfin, tu vois. Non, c'est. Mais je le trouve pur. Voilà.
Moi, je m'attendais à rien quand il est sorti.
Ouais. Mais je fais un gros clin d'œil quand même au réalisateur, au scénariste et
aussi. Au réalisateur, il a fait.
Et aussi, excusez-moi, pardon, au compositeur de la BO. Parce qu'il reprend ce qu'a fait John Williams, mais il le modifie.
C'est vrai.
Et il l'enjolie. Enfin, je veux dire, c'est magnifique ce qu'il a fait. C'est-à-dire que ça dénote pas avec ce qui a été fait avant, et il apporte un plus. Et moi, je trouve ça génial. Tout est beau.
L'appellation Star Wars, si t'as pas Dark Vador, on t'aurait dit c'est autre chose. On va abuser, quoi. Ouais.
J'ai un petit bémol. À l'époque, j'ai trouvé ça très beau. C'est les incrustations de visage. En vrai, faut arrêter ces conneries.
C'est pas le premier
Cushing. Là, je l'ai revu, je trouve ça dégueulasse.
Après, t'en as deux. T'as le commandant.
Ah, Peter Cushing.
Et t'as la princesse Léa.
Non, sérieux, quoi.
Je suis d'accord. Mais là, c'est nécessaire pour faire le lien. Le mec, il est entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Il a besoin de faire le lien, il a besoin de certaines scènes.
Ah, je suis pas d'accord.
Là, je les trouve utiles. Et je les trouve pas superflus. Comme on a pu les voir dans 7, 8, 9 des épisodes où en fait t'en as pas besoin.
Ouais.
Là, t'en as véritablement besoin. Regarde-le pour la fin. La fin, elle est. Ouais. Oh ! Mais c'est le meilleur moment de Star Wars que j'ai vécu.
Moi, c'est une démence. Le film, il monte en puissance tout le long.
Ouais.
Et t'arrives à.
Ouais, c'est ça. Et puis surtout, si vous êtes des vrais fans de Star Wars, vous avez regardé l'épisode 4, c'est le premier Star Wars que vous avez vu, et ça démarre de là. C'est-à-dire que la fin de Rogue One, c'est le début du 4. Je finirai là-dessus sur la musique de Michael Giacchino avec The Imperial Suite, qui a fait la BO de John Carter, Star Trek, Planète des Singes, Vice Versa, Coco, Jurassic World, The Batman, le dernier. Voilà, Michael Giacchino, The Imperial Suite.
Ok, et bah du coup c'était notre dernière de la saison, on se fait des bisous et puis on se retrouve au mois de septembre avec 10 nouveaux thèmes pour l'année.
Allez, salut
tout
le monde,
on se fait des bisous, on se retrouve au mois de septembre pour jeter bien.
Bisous tout le monde, bisous.
Vous avez aimé nos premières bamboches ? Ça tombe bien car l'équipe Primitive remet ça. Le 14 juin prochain, le chapiteau du Temps des Cerises subira les déflagrations punk hardcore de Marvin et Meyer. La noise poétique de Mossa et Mossai. Et s'adoucira peut-être avec notre composition locale, la chanteuse et guitariste pop folk rémoise Alice Drissi. De cette montagne, ses énergies. Le 14 juin au Temps des Cerises, viens faire la bamboche avec